Alain Todt, bonjour.
Bonjour.
Alors, la France est très présente en termes de recherche archéologique en Chine.
Pas vraiment. Comparativement aux autres missions archéologiques à l'étranger, comparativement à la Syrie où il y a une vingtaine de missions, en Chine, nous avons deux missions principales et d'autres missions qui font des travaux plus ponctuels. Donc une mission très importante dans le Taklamakan, dirigée par Corinne de Benfrancfort, qui est chargée de recherche au CNRS, et la mission que j'ai dirigée en Chine centrale, dans le Henan. Je pourrais en parler tout à l'heure si vous voulez, c'est un site d'habitat. En dehors de ces deux grandes missions, si, il y en a encore une autre qui est importante sur le paléolithique. Cette mission travaille dans le Roupé depuis 2-3 ans. Et puis sinon, j'évoquais des missions ponctuelles qui concernent également le paléolithique, la mission de Lumley, par exemple, et la mission de... J'ai perdu le nom.
Eh bien, ce n'est pas grave. L'archéologie chinoise, elle en est où?
C'est une archéologie qui est née dans les années 20. Donc tardivement par rapport à l'Occident, si vous voulez. Elle s'est fondée sur des méthodes qui étaient importées de l'Occident, qui ont été introduites pour la fouille d'un grand site, le site d'Anyang, qui se trouve en Chine centrale, qui correspond à l'ancienne capitale de la dynastie des Shang. Après la libération en 1949, le pays s'est organisé du point de vue des fouilles archéologiques en organismes de recherche. Aujourd'hui, chaque province a son institut archéologique et il existe encore un grand institut à Pékin qui est indépendant des provinces, si vous voulez, plus tous les organismes liés aux universités. Donc, Université de Pékin, Université de Wuhan, Université du Shantung, etc. C'est une archéologie florissante qui bénéficie de conditions extraordinaires en dépit d'un nombre relativement faible d'archéologues.
Qu'est-ce que vous appelez extraordinaire ?
Extraordinaire en ce sens que les tombes de la Chine ancienne sont en général extrêmement riches. Toutes périodes confondues, jusqu'à la dernière dynastie. Donc, si vous voulez, cela a amené les archéologues chinois à privilégier la fouille des sépultures. Et c'est ce qui permet de découvrir un nombre d'objets à la fois importants et qui permettent de retracer l'histoire de l'art depuis la plus haute antiquité.
Alors, quel est votre terrain de prédilection ?
J'ai un terrain qui est différent de celui des archéologues chinois. Comme je l'ai évoqué, c'est un site d'habitat. J'ai proposé ces fouilles aux archéologues chinois parce que, précisément, on n'est pas en mesure aujourd'hui de reconstituer un site d'habitat de l'Antiquité. On ne sait pas ce qu'était un site villageois, par exemple. On ne sait pas comment était l'habitat aux époques anciennes, ou du moins on ne le reconstitue que sommairement. Et si vous comparez avec la Gaule, par exemple, on a des fermes gauloises, on a des greniers, on a des tracés de route, on a toutes sortes de choses qui permettent de reconstituer la vie quotidienne dans l'Antiquité en Occident. Chose que l'on ne peut pas faire en Chine, sauf à travers le mobilier des tombes, mais ce qui signifie un certain nombre de limitations.
Alors pour revenir à l'empereur Qin Shi, est-ce qu'on pourrait le situer sur l'échelle du temps ?
Alors, en fait, c'est l'empereur Qin Shi Huangti. Donc, Shi Huangti signifie « premier empereur ». Qin, c'est la dynastie à laquelle il appartenait et qu'il a fondée en 221 avant notre ère. Cet empereur, avant de le devenir, était le roi d'une principauté qui se situait dans la partie ouest de la Chine Et c'est cette principauté qui a conquis, l'une après l'autre, toutes les autres principautés qui se combattaient en vue de l'unification de la Chine. Et en fait, le premier empereur est le premier personnage qui ait unifié la Chine.
Mais est-ce qu'on sait quel homme c'était ?
On le sait un peu à travers les écrits anciens, les sources, mais en fait, les historiens, les lettrés chinois n'ont pas beaucoup aimé le personnage de Qin Shi Huangdi. Et donc, pour cette raison, ils le décrivent sous des traits qui ne lui sont peu favorables. Mais je pense que certainement, ce n'était pas un personnage sympathique, c'était un tyran. Et c'est lui qui a, si vous voulez, imposé à la Chine, à la société chinoise de l'époque, des règles de vie extrêmement contraignantes.
Donc, il a eu un rôle politique capital ?
Oui et non, si vous voulez, parce que en fait, il était le représentant du ciel sur la terre. Donc, il s'appuyait sur un certain nombre de... Il s'appuyait sur un gouvernement. Et en fait, lui, je ne suis pas sûr qu'il ait eu un rôle fondamental, si vous voulez. C'est plutôt ses conseillers, les personnes avec lesquelles... qui travaillait en fait au gouvernement de la Chine de cette époque. Et puis il y a surtout une idéologie qui s'est constituée à ce moment-là, idéologie extrêmement contraignante, fondée sur la reconnaissance des mérites, sur le châtiment pour toutes les fautes qui étaient commises. On a retrouvé des codes de loi de cette époque que l'on peut bien dater puisqu'ils ont été trouvés dans une tombe qui date de 217 avant notre ère. Et donc on sait que le travail des ouvriers était extrêmement réglementé et que l'on ne pouvait pas sortir d'un certain nombre de standards.
Confucius était passé par là ?
Non, c'est pas vraiment. Non, c'est pas Confucius. En fait, dans le royaume de Qin, au milieu du IVe siècle avant notre ère, il y a un personnage qui s'appelle Shang Yang, qui a institué un certain nombre de réformes de gouvernement, et c'est lui qui a justement instauré l'importance de la loi dans la vie de la société et qui a modifié complètement le système social qui était auparavant fondé sur une aristocratie héréditaire et désormais c'était les mérites qui étaient reconnus et la société était subdivisée en plusieurs rangs, une vingtaine de rangs.
Alors, quelle est l'histoire de la découverte de cette armée de terre cuite à Xian ?
En fait, on sait depuis très longtemps quel est l'emplacement du mausolée du premier empereur. Ce mausolée a été photographié, par exemple, au début du siècle par Victor Segalen, qui avait fait une mission archéologique en Chine. Donc, il était bien connu. Simplement, on pensait que le mausolée recouvrait la tombe du premier empereur et se limitait à cela. En fait, il est apparu avec la découverte qui a été faite en 1974 et qui a été précédée de quelques petites découvertes beaucoup moins importantes auparavant, que toute l'ère se situe autour du mausolée a servi en quelque sorte de nécropole au premier empereur. Donc la fosse aux guerriers, qui a été découverte en 1974, se trouve à 1,5 km du mausolée. C'est dire l'importance de cette nécropole.
Alors est-ce qu'il y a des tombes similaires dans la province du Shanxi ?
Puisque le premier empereur a certainement l'une des tombes les plus vastes qui existent en Chine. On a des tombes très importantes aussi pour les empereurs des dernières dynasties. Mais disons que je crois qu'en termes de nécropole avec toutes ses dépendances, certainement c'est l'une des tombes les plus importantes qui soit. Simplement, cette tombe, elle a été bâtie à partir d'un certain nombre de modèles. Modèles qui existaient en particulier dans la principauté de Qin et dans d'autres principautés. En fait, comme on n'a pas fouillé la tombe du premier empereur, on ne sait pas quelle est sa structure interne, mais on peut la reconstituer à partir de ce qu'on connaît ailleurs ou dans la région, antérieurement ou à la même époque. Donc on peut présumer que à l'intérieur il y a une fosse très profonde au fond de laquelle on a construit une structure en bois composée de plusieurs chambres, de plusieurs compartiments dans lesquels étaient déposés le cercueil du défunt, le cercueil probablement de victimes sacrifiées et un ensemble d'objets qui devaient servir aux défunts dans l'au-delà. On sait par les textes aussi que l'empereur voulait il considérait que sa nécropole devait être aussi une représentation du monde tel qu'on le concevait à cette époque-là. Il est dit dans le texte de Sima Qian, le premier historien de la Chine, qui vivait à la fin du IIe siècle, au début du Ier siècle avant notre ère, que on a voulu reconstituer dans la tombe du premier empereur la voûte céleste, les fleuves, les mers. Donc, si vous voulez, il y a dans cette tombe une cosmologie. Elle représente en miniature le monde tel qu'on le comprenait à cette époque-là.
Alors, vous dites qu'on n'a pas fouillé cette tombe ?
Non, on ne l'a pas fouillée, mais probablement on l'a pillée.
Et pourquoi ne l'a-t-on pas fouillée ?
On ne l'a pas fouillée parce qu'il faut mobiliser pour cela des moyens considérables, que la Chine en ce moment est en plein essor et donc on est obligé de faire des fouilles de sauvetage sur l'ensemble du territoire chinois. Donc ça c'est une première raison, les moyens en hommes sont probablement insuffisants à l'heure actuelle. Le deuxième problème c'est que la fouille, vous savez, en archéologie est destructive, c'est-à-dire qu'à mesure que vous fouillez, vous détruisez. Et on va se trouver confronté à un problème de conservation. Conservation non seulement des structures qui sont à l'intérieur de la tombe, mais également conservation des objets. Donc quand il s'agit d'objets en bronze, il n'y a pas trop de problème, mais s'il s'agit d'objets en bois laqué par exemple, on se trouvera devant des problèmes de conservation.
Quel rôle jouait la ville de Xi'an en 231 avant Jésus-Christ ?
Xi'an en soi n'était rien, puisque la capitale se trouvait à Xianyang, qui se trouve au nord-ouest de Xi'an, c'est-à-dire à une quinzaine de kilomètres, si vous voulez, mais de l'autre côté de la rivière Wei. Il s'agissait de la capitale de l'Empire, dans laquelle se trouvait le palais de l'Empereur. Le palais de l'Empereur n'est pas décrit, mais il a été partiellement fouillé. On a retrouvé des traces de peinture murale, on a retrouvé des briques, des tuiles. On a en gros une idée de l'extension de ce palais. On sait également que le premier empereur a fait reconstruire sur place les palais des différents princes dont il a conquis les territoires en vue de l'unification de la Chine. Car le premier empereur était obnubilé par l'idée que les anciens princes pourraient à nouveau lui faire la guerre, et donc il les a contraints de se constituer en quelque sorte prisonniers, de venir sur place vivre dans la capitale avec toute leur famille, et donc il a fait reconstituer leur palais à cet endroit.
C'est une drôle de façon de concevoir la conquête d'un territoire.
Non, pas tout à fait, parce que si vous voulez, l'idée qui prévaut, c'est que l'empereur qui est au centre du monde reconstitue autour de lui tout ce qui existe sur son territoire. Donc, il avait le sentiment, en faisant bâtir ses palais, en forçant les familles à venir vivre autour de la capitale, qu'il y avait dans cette capitale, en quelque sorte, un centre, que c'était le centre du monde, où tout était réuni, toutes les richesses du territoire étaient réunies.
Et en plus, il les avait à l'œil. Est-ce qu'on pourrait faire une description de cette armée de terre cuite ?
Alors, l'armée se trouve prise dans trois fosses. Une très grande fosse qui fait plus de 200 mètres de long et environ, je crois, 70 mètres de large, qui est constituée en fait de plusieurs galeries. Qui sont de vastes corridors d'environ 4 mètres de large, recouvertes par des madriers, par des plafonds, donc, et ensuite recouvertes de terre. À l'intérieur de chacun de ces corridors, on a 4 guerriers. Donc ça, c'est pour les principales galeries qui se trouvent dans la fosse numéro 1. Et sur les côtés, les deux grands côtés de cette fosse, il n'y a que deux guerriers de front qui font face vers le nord et vers le sud, les autres soldats faisant tous face à l'est, c'est-à-dire en direction des territoires qui ont été conquis par le premier empereur.
Et il y en a 7000 ?
C'est une estimation, en fait. Jusqu'à présent, on en a extrait de terre environ 2000. Mais on a laissé les autres guerriers, avec l'idée qu'on les sortirait de terre un jour ou l'autre, mais on attend là encore d'avoir de meilleures techniques qui permettront de préserver le pigment, la couleur qui se trouve sur la surface des guerriers.
Alors, à quelle croyance correspond cette idée d'aligner les soldats dans une tombe ?
Là, on peut penser que c'est à la fois la commémoration des différentes victoires que l'empereur a menées contre les autres princes, et puis c'est une façon de reconstituer dans le sol l'armée qu'il avait sur terre. Donc, si vous voulez, ça participe du même esprit de regrouper dans sa tombe tout ce qui était représentatif de son pouvoir sur terre. Donc c'était lui, en quelque sorte, le chef des armées, et donc c'est la raison pour laquelle vous avez ces soldats, mais il doit y avoir très probablement dans sa tombe un ensemble de vases sacrificiels, puisque c'était lui qui, au premier chef, rendait les sacrifices aux ancêtres, à ses propres ancêtres. Donc, on peut supposer que dans sa tombe, il y a un ensemble extrêmement important de vases en bronze rituels.
Donc cette tombe relie le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel ?
Si vous voulez, d'une certaine façon, elle reflète le pouvoir temporel qu'avait le premier empereur lorsqu'il régnait sur son empire.
Combien de temps il a fallu pour construire cette armée ?
C'est difficile à dire, mais très probablement une bonne dizaine d'années, je pense. C'est-à-dire que l'empereur a certainement conçu cette sépulture dès qu'il est monté sur le trône. Donc, c'est-à-dire dès qu'il a été fait roi, avant de devenir empereur. Donc il a dû concevoir sa tombe, demander à un certain nombre de personnes, d'artisans, d'artistes, d'élaborer un projet, et puis avec le temps, probablement que ce projet a été modifié et étendu. Mais on peut voir, à travers les découvertes qui ont été faites jusqu'à présent, qu'il y a des parties qui sont restées inachevées. Par exemple, j'ai mentionné tout à l'heure l'existence de trois fosses. En fait, il y avait une quatrième fosse qui était vide et qui était probablement destinée à recevoir un certain nombre de guerriers qui n'ont pas été placés et qui n'ont pas été probablement achevés.
Parce qu'il est mort trop tôt.
Il est mort, il avait une quarantaine d'années. Et donc, en fait, il est mort loin de sa capitale, au bord de la mer Jaune, dans le Shantung, parce qu'il était obnubilé par l'idée de l'immortalité. Donc, il recherchait des élixirs d'immortalité, et donc il avait des contacts avec des magiciens qui lui promettaient un certain nombre d'élixirs qui lui permettraient d'accéder à cette immortalité. Et donc il est mort au cours d'un de ses voyages, et on a rapatrié son corps sans dire qu'il était mort.
Est-ce qu'il a un rapport avec la Grande Muraille ?
Oui, il y a un rapport important, puisque, si vous voulez, la Grande Muraille est la résultante d'un certain nombre de grandes murailles qui étaient disjointes. Et ce que le premier empereur a fait exécuter, ce sont les liaisons entre toutes les murailles qui existaient jusqu'alors et une réfection générale de cette grande muraille qui s'est étendue jusqu'à que au Gansu, c'est-à-dire très loin dans la région ouest de l'Empire.
Que nous apprend l'armée de Xian sur la Chine du IIe siècle avant Jésus-Christ ?
Elle nous apprend beaucoup de choses sur la conception de l'armée, sur l'armement, sur le développement de la cavalerie, par exemple, qui n'existait pas auparavant, qui n'a commencé à exister qu'à partir du 3e siècle avant notre ère, à la suite des combats que les Chinois ont menés contre les populations nomades qui vivaient à la périphérie du monde chinois. Donc, en fait, justement, c'est un point qui est important et que l'on peut voir dans l'exposition, puisque on a deux chevaux qui figurent, dont un est complètement équipé d'une selle en particulier. C'est la première représentation que l'on ait d'une selle dans l'Antiquité chinoise.
Quels sont les problèmes d'entretien et de conservation de ces guerriers ?
Les problèmes sont très importants lorsqu'il s'agit des pigments, puisque au contact de l'air, la peinture perd sa couleur et finalement la couleur disparaît. Donc il y a des collaborations avec des instituts étrangers pour essayer de préserver ces couleurs. Mais ce n'est pas le seul problème qui se pose à la découverte des soldats de Qin Shi Huangdi. En effet, après la mort de Qin Shi Huangdi, il y a eu des révoltes dans l'Empire et la tombe a été en partie saccagée. Donc, une partie de la tombe a été brûlée et on peut penser qu'un certain nombre de soldats ont été détruits. En particulier, les guerriers, mais également, par exemple, les fonctionnaires que l'on a retrouvé en 2000 et 2001 dans une autre galerie. On voit bien dans ces galeries que ces personnages ont été délibérément cassés. Donc le travail des restaurateurs plutôt, c'est de recoller tous les morceaux que l'on trouve dans la terre. Et ça, c'est un travail qui est assez minutieux, assez lent et complexe, puisque il faut retrouver les bons morceaux et les mettre ensemble. Mais enfin, ça, c'est un travail que tout archéologue connaît, si vous voulez. C'est un travail classique. Tout à l'heure, j'ai mentionné le site d'habitat sur lequel nous avons fouillé. Nous avons trouvé 48 000 tessons. Et donc, vous voyez qu'il y a eu beaucoup de cas. C'est qu'après, il faut essayer de recoller tous ces morceaux.
Est-ce qu'il y a eu beaucoup de pillages ?
Alors, des pillages dans la tombe du premier empereur, c'est difficile à dire. Je suppose qu'il y en a eu beaucoup, puisque l'on sait, par exemple, que dans la tombe d'un des princes de Qin qui vivait au VIe siècle avant notre ère, il y a eu plusieurs tentatives de pillage. Même plus que des tentatives, c'est-à-dire que la tombe a été complètement mise à sac, mais pas au même moment, si vous voulez. Ça s'est passé en plusieurs étapes, mais on n'a pu retrouver que des fragments, que quelques objets, mais la majorité des pièces avaient été emportées par les pillards. Et on peut supposer que dans la tombe du premier empereur, ce sera à peu près la même situation. En revanche, les fosses n'avaient pas été pillées parce qu'on ne supposait pas qu'il y avait dans le sol de tels personnages. Ce qu'on savait, il y avait des légendes dans la région qui disaient qu'il y avait des divinités d'argile dans le sol. Et ces légendes ont été réactivées au moment où les premiers guerriers ont été trouvés en 1974.
Il y a beaucoup de contrefaçons aujourd'hui.
Des contrefaçons, non. Il y a des copies. Donc, des copies, puisque ça, c'est quelque chose qui est classique, si vous voulez. Quand on découvre de beaux objets, souvent, on en fait des copies. On en fait des copies qui ont diverses destinations. On fait des copies au Louvre, par exemple, des plus belles pièces, pour pouvoir les vendre aux touristes. Donc, on fait la même chose aussi en Chine. On fait des copies des statues du premier empereur. On en fait en réduction. On en a quelques-unes qui font 10 cm de haut, et puis on en fait à l'échelle.
Alors à l'échelle, ça s'appelle donc pas des contrefaçons, mais c'est juste des copies.
Ben, ça dépend comment on les présente. Si vous les présentez comme des copies, ce sont des copies. Si vous les présentez comme des œuvres authentiques, ce sont des contrefaçons.
Alors je voulais en venir à l'idée des expositions, parce que ces guerriers qui se promènent un peu partout dans le monde, moi ça m'évoque quand même l'idée qu'ils sont peut-être pas tous vrais en fait, parce que ça me semble difficile de les bouger, ça me semble très dangereux, ils sont très fragiles. Donc est-ce que de temps en temps il y a des copies qui circulent ?
Alors n'oubliez pas qu'on en a trouvé, qu'on en a sorti de terre jusqu'à présent près de 2000. Donc, les archéologues chinois, les musées chinois ont de grandes réserves. Il y a des statues qui restent évidemment dans le musée de site, hein, puisqu'on peut, on peut voir les galeries que j'ai évoquées tout à l'heure avec un certain nombre de guerriers. Mais il y a à côté des fosses un musée de site dans lequel sont présentées également un certain nombre de statues. Et puis, il y a encore, au musée de la province, un certain nombre de statues qui ont été disposées soit dans les salles du musée, soit dans les réserves. Ça, c'est un principe qui est classique en Chine. Lorsqu'on fait une découverte dans une province, un certain nombre d'objets peuvent rester sur place sur un musée de site que l'on va élevé si la découverte est importante, mais dans le cas général, les objets sont rapatriés dans la capitale de la province. Et autrefois, les principaux objets étaient emmenés à Pékin. Mais les provinces, dans les années 80, se sont rebellées contre ce principe et refusent très souvent que leurs objets soient déposés dans le musée d'histoire de Pékin. Donc, en fait, si vous voulez, ces statues des fosses de Qinshihongti sont actuellement dispersées en plusieurs points de la Chine. À mon avis, il n'est pas nécessaire, quand on fait une exposition à l'étranger, de donner des copies plutôt que des œuvres authentiques, si vous voulez. C'est pas nécessaire puisqu'on a de la réserve. Mais tout dépend aussi comment vous organisez votre exposition. Donc, une exposition, lorsqu'elle est organisée à l'étranger, sérieusement, doit nécessairement passer par le bureau du patrimoine de la province et le bureau du patrimoine de Chine. Donc, le bureau du patrimoine de Chine est en quelque sorte le garant de l'authenticité des œuvres. Donc, je n'imagine pas qu'à ce niveau-là, on puisse essayer de placer des copies à la place de faux. Donc, si vous voulez, pour moi, c'est absolument impossible, parce que ce serait détruire même le principe de ces expositions à l'étranger. N'oubliez pas que toute exposition organisée à l'étranger rapporte de l'argent à la Chine.
Comment ?
Ben parce que les œuvres sont en partie louées, si vous voulez. Donc, quel serait l'intérêt de détruire la poule aux œufs d'or ? Les Chinois ont organisé, dans les principaux pays de l'Occident et au Japon, de très grandes expositions. Et ces expositions, pour eux, sont très importantes pour leur rayonnement culturel, pour montrer quelle est la culture de la Chine. Ça, c'est vraiment extrêmement important à leurs yeux. Donc, ils n'ont pas du tout intérêt à jouer sur la copie, le faux, la contrefaçon. Ce serait détruire toute une politique qu'ils ont patiemment construite depuis une trentaine d'années. Au début, parce que moi je me suis occupé de plusieurs expositions archéologiques chinoises en France, et j'ai participé à de nombreuses expositions à l'étranger. Donc je connais un petit peu la façon dont les choses se passent, et j'ai vu surtout l'évolution. Les premières expositions qui étaient organisées à l'étranger étaient faites dans des conditions vraiment très très précises. Les Chinois avaient peur de présenter leurs objets, surtout qu'il arrive un malheur, qu'un objet soit détruit ou soit endommagé lors d'une exposition. D'autre part, ils avaient réalisé l'énorme retard de leurs conservateurs en matière de muséographie, l'énorme retard de leurs archéologues en matière de méthode de fouille. Donc, ils ont édicté une sorte de principe qui consistait à faire accompagner toute exposition par un certain nombre d'archéologues et de conservateurs. Et je me souviens que, par exemple, en 1992, je me suis occupé d'une exposition qui avait lieu en Bretagne. Donc, les Chinois ont exigé que une délégation importante de Chinois viennent en France à l'occasion de l'inauguration. Et puis ensuite, ils ont demandé que trois conservateurs ou archéologues restent jusqu'à la moitié de l'exposition. Ils ont été relayés par trois autres archéologues. Mais en fait, si vous voulez, bon, c'était coûteux pour les organisateurs de ces expositions. Mais sur le plan scientifique, c'était extraordinairement rentable pour la Chine, parce que leurs conservateurs, leurs archéologues avaient enfin l'occasion d'ouvrir les yeux sur le monde.